Amis, bonsoir. Soyez les bienvenus pour la conférence organisée par le groupe d'études théosophiques en Tarentaise. Le thème proposé ce soir, l'ange gardien, quelle réalité derrière la croyance, va nous amener à découvrir ce sujet à la lumière de la théosophie. Alors, pour introduire la conférence de ce soir, nous allons lire un passage tiré du cahier théosophique numéro 108. Alors là, il va être question plusieurs fois de HPB. HPB, c'est Madame Blavatsky, Elena Petrovna Blavatsky. À travers toute la littérature mystique du monde ancien, nous découvrons la même idée de l'ésotérisme spirituel, à savoir que le Dieu personnel n'existe nulle part en dehors de l'adorateur, mais uniquement en lui. HPB repoussa toujours énergiquement l'idée d'un Dieu personnel qui se trouverait dans le monde extérieur, mais elle croyait au Dieu personnel qui réside dans le cœur de chaque adorateur. Cette déité personnelle n'est pas un vain souffle ou une fiction, mais une entité immortelle. Nous avons à découvrir l'être immortel en nous. C'est lui qui doit nous initier, c'est lui qui doit nous apporter la lumière. Cet enseignement d'HPB est d'une valeur et d'une importance vitale en ce moment même. Sans la reconnaissance de ce fait principal, central, capital, qu'il existe en nous une entité immortelle dont les activités doivent être amenées à s'exprimer, nous ne pouvons rien faire dans la vie spirituelle. Le royaume des cieux ne peut être conquis par la violence que lorsque le Dieu immortel en nous a été éveillé à l'activité et amené à s'exprimer. C'est pourquoi nous devons le trouver. Ailleurs, HPB dit qu'il est le maître des maîtres et qu'il n'y a pas de maître au-dessus de cette étincelle divine et immortelle qui se trouve en nous. HPB insiste fortement sur le développement des pouvoirs de l'ego supérieur. Mais si nous nous examinons sincèrement, beaucoup d'entre nous constateront qu'ils dépendent trop des choses extérieures. Celles-ci peuvent être très bonnes, peut-être très précieuses, mais ce sont toujours des choses extérieures. Si nous ne comprenons pas que toutes ces vérités nous sont données pour que nous les appliquions selon notre propre méthode, aucune puissance sur terre ou au ciel ne peut nous aider. Sauf nous-mêmes, nous persévérerons dans nos erreurs. Par conséquent, la confiance dans la conscience intérieure, dans le soi intérieur, est nécessaire. Place maintenant à la conférence.
Alors, amis, le concept de l'ange est en fait présent dans absolument toutes les traditions religieuses, qu'elles soient monothéistes ou polythéistes. En fait, l'ange correspond à une entité invisible, une entité invisible que nous ne pouvons pas voir, mais que peut-être certains peuvent pressentir. Et en fait, entre le divin absolu et le plan terrestre où nous sommes, il y a une multitude de niveaux qui diffèrent suivant les traditions, et à chaque niveau sont disposées ces entités qui souvent sont dirigées par un chef. En Inde, il y a ces armées de Deva, de Gana, les Juifs ont leurs séraphins, leurs chérubins, et en fait, toutes ces entités vont être divisées en deux parties, les bons et les mauvais. Alors, pour les hindous, en fait, il y a les devas d'un côté, les asuras d'un autre. Et pour les chrétiens, eh bien, il y a les anges fidèles à Dieu ou les anges déchus en face, ou alors les anges rebelles à Dieu. Mais en fait, il faut savoir que dans la Bible hébraïque, par exemple, certains vont servir de messagers entre l'homme et le divin, et Dieu, Yahvé. Et en fait, c'est là que commence à apparaître l'idée de l'ange gardien. Et cette idée n'est pas tellement présente dans le Nouveau Testament, sauf dans une partie de Matthieu où il est dit que Jésus invite à ne pas mépriser un seul de ses petits, car, dit-il, leur ange dans le ciel contemple sans cesse la face de mon Père qui est dans les cieux. Donc, sinon, cette idée, elle n'est pas vraiment présente dans ce Nouveau Testament. Par contre, cette notion d'ange gardien va être à nouveau mise en valeur au IVe siècle par Saint Basile de Césarée, qui va donc en parler, et on va considérer que c'est l'accompagnateur, le guide, celui qui va aider, qui va conseiller. Et en fait, on se rendra compte que finalement, cet ange gardien, eh bien, il correspond au génius des Latins, au daimon des Grecs. Et on se souvient, par exemple, que Socrate avait un daimon qui le conseillait. Et donc, c'est une chose qui était tout à fait connue bien avant donc le système chrétien. Alors après, eh bien, on n'en a plus entendu parler de ces anges gardiens. Mais en fait, on pense que c'était peut-être que si jamais on se tournait un petit peu trop vers notre ange, si on le priait, si on le vénérait, ça pouvait friser un peu trop le polythéisme. L'accent était plutôt mis sur Jésus qui était le seul sauveur de l'homme. Et les anges gardiens sont un peu restés dans l'ombre. Mais au XXe siècle, ils sont arrivés en trombe, si on peut parler ainsi. On en a beaucoup entendu parler. Alors il faut savoir qu'en Hongrie, au moment de la guerre, en pleine guerre, il y avait quatre jeunes qui avaient l'habitude de se réunir. C'était des gens qui n'étaient pas forcément très mystiques, mais qui étaient préoccupés du sens de la vie, qui se réunissaient parce qu'ils avaient la même passion pour la création artistique. Et un jour, une des personnes qui s'appelle Anna s'est mise à parler, mais ce n'était pas elle qui parlait. En fait, elle s'est sentie investie d'une présence qui s'est mise à donner un enseignement, des messages pour chacun des quatre jeunes. Et ce n'était pas du tout elle qui parlait. Mais ces messages sont vraiment d'une haute volée spirituelle. Et en fait, la teneur des messages tourne sur le fait qu'il y a urgence d'une métamorphose intérieure, qu'il faut se changer, qu'il faut avoir confiance dans l'éternel, il y a quelque chose d'éternel. Enfin, c'était des messages très intéressants. Et en fait, pendant 17 mois, du 25 juin 1943 et pendant 17 mois, toutes les semaines, eh bien, des anges, ils appelaient ça des êtres de lumière ou le maître intérieur, parlaient à partir de cette personne, Anna, par sa voix, et donnaient donc un message qui était très d'une haute volée spirituelle. Et alors, le fait assez étonnant, c'est que en fait, jamais ces anges n'ont critiqué, n'ont dit des paroles blessantes par rapport à ces SS qui avaient envahi la Hongrie, ni par rapport à ces jeunes engagés qui donnaient des coups de fusil un petit peu partout dans la ville et qui terrorisaient les habitants. Jamais ils ont eu une parole d'apitoiement ou de commisération pour les quatre jeunes qui étaient condamnés d'avance, parce qu'il y en a trois qui vont être... les quatre vont partir en camp de concentration, trois sont juifs, et ils vont jamais... il y en a trois qui vont jamais revenir des camps de concentration. Et donc, Gita, la seule rescapée, va se faire un devoir donc de retransmettre, va écrire plusieurs livres, dont le premier va sortir en 1976, et donc elle va se faire un devoir de retransmettre tout ce qui a pu être dit. Et en fait, on verra qu'il s'agit d'un message peut-être pas toujours clair, où se mélangent les nombres, des figures géométriques. On dirait un petit peu une gnose hermétique. C'est un enseignement qui semble initiatique. Mais celui qui lit ce livre, eh bien, il a vraiment le sentiment d'une authenticité. Et ce sont des paroles qui donnent la force parce qu'on sent l'amour derrière. Et ces paroles ont certainement dû beaucoup aider ces jeunes qui ont dû traverser des moments extrêmement difficiles puisqu'ils ont vécu les camps de concentration. Alors, hormis ces messages, eh bien, en fait, il faut savoir qu'on a encore beaucoup de témoignages sur les anges. Et il se trouve que le docteur Moody, que vous connaissez peut-être, c'est celui qui a écrit sur les témoignages des NDE, donc des rescapés de la mort, a consacré toute une partie de son deuxième ouvrage, les nouvelles lumières sur la vie après la vie, eh bien toute une partie de son deuxième ouvrage sur précisément des secours inattendus qui arrivaient à des individus et qui se trouvaient sauvés grâce à ces secours inattendus. Et dans ces témoignages, il y a par exemple ce témoignage de cet homme, un ouvrier, qui tombe dans une cuve qui lance des jets de vapeur acide, et là, il ferme les yeux, il ne peut pas ouvrir les yeux, bien évidemment, et à ce moment-là, il a l'impression que, malgré qu'il ait les yeux fermés, qu'il y a une lumière qui rayonne en lui et qui va le guider pour sortir de cette cuve, précisément un passage où il va vraiment avoir le moins de dommages possibles physiques, et il va s'en sortir. Et puis, il y a aussi cet exemple, c'est un fantassin qui se trouve à un endroit, et voilà qu'il y a un avion qui pique sur lui en mitraillant l'endroit. Et là, tout d'un coup, c'est pareil, il se sent investi d'une présence intérieure qui le calme, qui lui dit « ne t'en fais pas, c'est pas ton heure ». Et effectivement, eh bien, il ne sera pas touché, pas blessé, il va s'en sortir. Et là, comme ça, donc, on a plusieurs témoignages. On a d'autres témoignages dans d'autres livres. Par exemple, ce témoignage de cette femme qui doit traverser un parc mal famé la nuit. Et puis, tout d'un coup, elle voit un énorme molosse à ses côtés. Et puis, quand elle est passée l'endroit difficile, à risque, eh bien, voilà que le molosse disparaît. Donc, c'est tout un tas de témoignages très intéressants. Et on a aussi un témoignage vraiment très intéressant. C'est un témoignage d'un journaliste qui s'appelle Pierre Jovanovic. Et lui, alors, en fait, il était sur une autoroute. C'est pas lui qui conduisait, c'était une amie. Et puis, une autoroute en Amérique. Et tout d'un coup, il va se projeter vers la gauche, sans savoir pourquoi. Et au moment où il se projette vers la gauche, eh bien, il y a le pare-brise qui éclate, transpercé d'une balle qui vient se loger précisément à l'endroit où il aurait dû être si ce n'était pas projeté vers la gauche. Et là, bien évidemment, il se pose des questions. Il se dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Rien ne m'avait poussé à faire ça. Est-ce que ce n'est pas possible? J'ai un ange, il y a un ange avec moi, j'ai un ange gardien, ce n'est pas possible. Et comme c'est un journaliste, eh bien, il va s'intéresser au sujet. Mais comme il va vouloir s'intéresser au sujet, par moments, dans ce monde de rationalité, bien évidemment, ça va lui paraître un sujet un peu loufoque, et il doute. Et à partir du moment où il doute, eh bien, il va rencontrer, entre guillemets, des anges partout. Il va y avoir des phénomènes de synchronicité incroyables. Par exemple, à un moment donné, il entend une chanson sur une radio, il ouvre la radio, il tombe sur une chanson qui parle de l'ange gardien. Alors il se dit, moi j'ai peut-être un ange gardien, je ne sais pas, puisqu'il m'est arrivé ça, j'ai peut-être un ange gardien. Et puis, même pas une heure après, il se trouve dans une librairie et tombe sur un livre sur un ange. Alors ça, c'est un phénomène de hasard, peut-être, c'est peut-être le hasard. Mais il se trouve qu'il va y avoir d'autres hasards très curieux, et on va simplement vous lire un passage de son livre, où il explique les choses, parce que ce phénomène de synchronicité est très très intéressant. Alors il dit, plus je me passionnais pour le sujet, et plus les signes, dans un enchaînement de coïncidences invraisemblables, fusaient. Petit à petit, j'eus le sentiment étrange qu'un dialogue invisible s'était instauré entre ce supposé ange et moi. Un dialogue que Jung a nommé synchronicité. Il ne s'agissait pas de dialogue au sens propre du terme, mais plus exactement de signes qui n'ont de sens que pour vous et personne d'autre. Par exemple, vous marchez dans la rue et vous vous demandez très sérieusement si l'ange gardien n'est pas simplement un produit de votre imagination et celle des autres. Et juste à ce moment-là, une fille passe devant vous portant un t-shirt avec des ailes dans le dos. La première fois, vous vous dites qu'il s'agit d'un pur hasard. La deuxième fois, lorsque quelqu'un vous offre un livre d'art sur les anges, vous pensez que c'est une véritable coïncidence. La troisième fois, vous recevez une lettre commençant par « Tu as été mon ange gardien » d'une personne que vous avez connue bien avant votre soudaine passion et vous vous dites que c'est une simultanéité incroyable. À la quatrième fois, vous ne trouvez plus de mots. Au bout de la dixième, vous déclarez forfait et à la vingtième, vous parlez très sérieusement à votre ange. À ce moment-là, ces réponses vous surprennent au détour d'une rue, d'un livre, d'une personne, d'une lettre ou d'un coup de téléphone. Je me souviens qu'un jour, je décrochais le téléphone et au bout du fil, une personne que je devinais très âgée me demandait si elle était bien à l'église Sainte-Marie des Anges. J'en restais quasiment sans voix. Et on le comprend. Et c'est ce qui va l'inciter finalement à écrire un livre qui s'appelle « Enquête sur l'existence des anges gardiens ». Alors nous vous invitons vraiment à lire ce livre, il est très très intéressant. Parce que c'est une enquête vraiment très sérieuse. Alors donc, pour simplement terminer avec ces témoignages, nous allons simplement raconter l'histoire de ce soldat qui doit partir en permission et son campement est basé à côté de Reims. Et un camion doit l'emmener dans la ville de Reims. Donc il prend place dans le camion et puis là, tout d'un coup, il entend une voix qui lui dit « Va écrire une lettre à Margaret ». Il se trouve que Margaret, c'est sa fiancée. Elle trouve l'idée complètement stupide parce qu'il a eu du mal à obtenir cette permission. Il a vraiment envie d'aller profiter de ce jour de sortie. Et là, comme il ne bouge pas, la voix recommence et lui dit « Va écrire une lettre à Margaret ». Mais là, il a vraiment envie d'aller voir la cathédrale de Reims. Il ne bouge pas. Et la troisième fois, la voix est tellement forte qu'il a peur que ses amis l'entendent, que les autres soldats l'entendent. Du coup, il descend du camion. Et là, il y a un jeune soldat qui va prendre sa place. Et il se trouve que le camion n'aura pas fait 10 km, qu'il va sauter sur une mine. Et le jeune soldat, eh bien, il est tué sur le coup. Alors là, on dit bravo, l'ange gardien a sauvé ce soldat. Mais alors, qu'en est-il de l'ange gardien du soldat? Pourquoi n'est-il pas intervenu? Alors ça pose quand même des questions, ça pose problème. Est-ce qu'on a tous un ange gardien dans ces cas-là? Donc alors on va essayer de répondre un petit peu à la lumière de la théosophie. Hein, on va essayer de démêler un petit peu tout ça. Alors il faut savoir qu'avec la théosophie, comme il a été un peu expliqué dans la présentation avant la conférence, eh bien, il n'y a pas de Dieu personnel qui a créé à un moment le monde, mais en fait, tout l'univers est le produit d'une émanation à partir d'un principe absolu qui est jamais né, qui est l'aspect, on pourrait dire, l'esprit, l'aspect conscience, qui n'est donc jamais né, qui ne mourra jamais, mais à partir duquel, périodiquement, un univers va émaner. Et en fait, cet univers, eh bien, tout ce qui construit cet univers représente toutes des forces qui sont enracinées dans ce principe et qui vont, par l'expérience, pouvoir développer tout le potentiel, enfin une partie du potentiel de l'esprit dans lequel ils sont enracinés. Et il faut savoir que, en fait, cet esprit qui est l'aspect permanent et qui existe, qui est de toute éternité, donc dans chaque individu bien évidemment, mais dans tout ce qui existe, eh bien cet esprit se reflète dans des myriades et des myriades d'entités qu'on pourrait appeler anges évidemment, bien évidemment, qui sont tous porteurs du divin et qui sont en fait, pour ainsi dire, les agents plus ou moins conscients, plus ou moins intelligents, des lois universelles et notamment de la loi de karma. Et Madame Blavatsky, dans sa doctrine secrète, nous explique que en fait chacun de ces êtres soit a été un homme dans un manvantara précédent, et il faut savoir qu'un manvantara représente un immense cycle de vie qui qui va permettre le développement complet d'une humanité, de son enfant jusqu'à sa maturité complète. Et en fait, ce Manvantara va être ponctué de plusieurs cycles, et sept grands cycles, et ces sept grands cycles vont être encore ponctués d'une multitude de sous-cycles. C'est assez compliqué, mais enfin, il faut bien comprendre que tout est cyclique dans la nature, et que chaque cycle, d'ailleurs, nous permet de faire des expériences, d'assimiler pendant la période d'activité, et puis pendant la période de repos, eh bien, il y a une assimilation de cette expérience, et quand on revient à l'activité, comme quand l'univers revient à l'activité, eh bien, c'est avec un plus, avec toute l'expérience assimilée du passé. Donc, il faut savoir que toutes ces entités, tous ces anges, si on veut, eh bien, ce sont soit des hommes qui ont été des hommes avant et qui ont poursuivi leur évolution bien au-delà de l'évolution de l'homme, soit ce sont des hommes en préparation, si on peut dire. En fait, soit ce sont des hommes devenus parfaits, c'est-à-dire qu'ils sont passés par le stade humain dans lequel nous sommes actuellement et ils ont développé des potentialités qui nous dépassent. On peut peut-être imaginer ce que c'est que l'homme parfait, mais à certains niveaux, on ne peut même pas imaginer ce que peuvent être ces entités spirituelles. Et soit ce sont des germes d'hommes en devenir, de futurs hommes, peut-être dans ce Manvantara, mais peut-être dans un Manvantara futur. Alors, il faut savoir que tous ces êtres n'ont pas été créés, mais ils sont issus de la sur-âme universelle, qui peut être considérée, enfin, d'un point de vue métaphysique, on pourrait, pour bien situer les choses, pour les comprendre, on est obligé de se servir de symboles, et on va se servir du symbole du soleil, et cette sur-âme, c'est comme un soleil, et nous sommes un rayon de ce soleil. Et nous allons développer toutes les potentialités latentes de ce soleil, mais il y a des potentialités qui sont encore à développer dans des cycles futurs. Et l'évolution n'aura jamais de fin. Et elle se fait comme ça, par la ponctuation d'univers qui naissent, qui se développent et qui finissent par se rétracter et revenir à l'élément primordial qui est cet esprit, si vous voulez. Et après, à nouveau, un univers va réapparaître et tous les êtres dans l'univers vont reprendre une fonction et une place qui est en rapport avec toute leur expérience passée, tout leur vécu passé, tout leur éveil, bien évidemment. Et il faut savoir qu'à partir du plus haut des Dhyani Bouddha, c'est-à-dire de ces hiérarchies d'êtres les plus élevés, aux plus simples des éléments de la nature, eh bien en fait, tous ce sont des consciences, âmes en évolution. Et chacune a une certaine fonction, donc comme on l'a dit, par rapport à son degré d'éveil. Et les hiérarchies les plus hautement spirituelles, eh bien, vont avoir la gestion même d'un univers. Elles vont gérer la marche évolutive du cosmos. Et tandis que les consciences qui sont semi-intelligentes dans les formes élémentales, eh bien, elles sont un petit peu comme des acteurs qui vont être guidés par cette loi cosmique. Alors, quand on comprend ça, eh bien, en fait, il faut comprendre qu'il n'y a pas de différence de nature entre toutes ces hiérarchies d'êtres qui sont, même par rapport au règne de la nature, les règnes les plus inférieurs jusqu'à l'homme. Il n'y a aucune différence de nature, mais il y a simplement une différence d'éveil. Donc, ça, c'est très important. Il faut savoir que, étant donné qu'on est tous enracinés dans ce même principe, en fait, eh bien, il y a une solidarité une solidarité naturelle entre les êtres, parce qu'il y a interdépendance, interéchange, et on évolue tous de concert. Et chaque hiérarchie apporte quelque chose aux hiérarchies qui sont moins en avance. Et qu'on le veuille ou non, nous interférons. Nous influençons les hiérarchies qui sont au-dessus de nous, comme les animaux par exemple. L'homme influence les hiérarchies, la hiérarchie des animaux. Et en fait, il faut savoir que nous sommes responsables de ce que nous pouvons transmettre aux hiérarchies inférieures. Et un jour ou l'autre, il faudra donc, on va dire, rétablir l'équilibre que nous avons détruit. On est responsable de tout ce qu'on peut faire, de nos actions, de nos pensées, de nos désirs, etc. Mais les hiérarchies supérieures, elles sont conscientes de cette responsabilité. Et il faut savoir que, bien évidemment, elles s'engagent dans le travail qu'elles font. Elles sont vraiment une aide pour éveiller les hiérarchies inférieures. Et la doctrine secrète nous dit précisément qu'il y a 18 millions d'années, l'humanité qui nous a précédés, en tout cas une partie de cette humanité qui est maintenant donc la hiérarchie juste au-dessus de l'homme, eh bien une partie s'est incarnée, mais incarnée entre guillemets parce qu'on n'était pas encore dans des corps physiques, on était plutôt sur le plan astral, eh bien se sont mêlés à l'humanité pour éveiller l'humanité à la conscience réfléchie, pour stimuler cette conscience réfléchie. Et après, par la suite, ils sont restés encore proches de l'humanité, se sont là incarnés dans l'humanité pour mettre cette humanité sur les rails de la civilisation en leur apprenant, leur inculquant les sciences, l'architecture, en leur donnant la connaissance des simples pour se soigner, enfin tout un tas de choses qu'ils nous ont transmis et durant une certaine période. Et il faut savoir que cette période d'initiation, eh bien, il en a été question dans certaines traditions, par exemple chez les Grecs, où il est parlé du mythe de Prométhée qui vole le feu du ciel pour l'apporter aux hommes. Donc c'est cette intelligence réfléchie, cette soi-conscience qui a été stimulée dans l'homme. Et en fait, Prométhée, eh bien, il va se retrouver enchaîné à un rocher. Et il faut savoir qu'il sera délivré de ce rocher par Héraclès, mais Héraclès, quand il aura atteint sa stature, et quand l'humanité aura atteint la stature de ce Prométhée, c'est-à-dire de ces hiérarchies qui sont au-dessus de nous, eh bien, ces anges, ce Prométhée, qui symbolise bien évidemment une hiérarchie d'êtres spirituels, sera libéré de cette fonction. Et donc, on retrouve aussi cette idée dans le mythe de la Genèse, précisément le mythe du serpent qui va inciter Ève à manger du fruit de l'arbre de la connaissance. Et c'est à partir de ce moment-là que Adam et Ève ne deviennent plus des innocents et ils ont conscience du bien et du mal. Et ils vont revêtir des vêtements de peau parce que c'est précisément la phase où on va passer du plan astral au plan physique avec des corps de chair. Des corps de chair et donc soumis à des conditions physiques et on sait que nos corps vont mourir à un moment donné. Et donc c'est pour ça que on voit que Dieu dit « vous allez mourir et vous serez soumis à la mort », etc. dans ses corps de chair. Et le serpent va être condamné à ramper sur le sol. C'est-à-dire que le lien existe toujours avec un lien karmique entre ces hiérarchies et ces hommes que nous sommes. À l'époque, nous étions des enfants, enfin, enfants entre guillemets, on était des hommes, mais des hommes qui commençaient à être des humains, à avoir des sentiments humains, des émotions humaines, enfin, qui ont été stimulé grâce à cette proximité d'être beaucoup plus éveillé que nous. Et donc, il faut savoir qu'à cette époque, quand on était encore sur ce plan astral et qu'on marchait avec les dieux, comme le disent certaines traditions, eh bien, notre œil spirituel était actif, puisque c'était le seul sens d'ailleurs qu'on avait. Mais quand on s'est incarné dans des corps physiques, avec des yeux physiques, eh bien, au fur et à mesure que nos yeux se sont attachés aux délices de la terre, aux plaisirs, etc., à tout ce que la terre pouvait nous apporter, eh bien, notre œil spirituel s'est atrophié. Et donc, du coup, eh bien, on a perdu le sens qui nous permettait de sentir la proximité de ces êtres, de ces entités spirituelles, avec nous-mêmes. Ce n'est pas parce qu'on ne les voit plus et qu'on ne les sent plus qu'ils ne sont pas toujours là, présents, actifs au niveau de notre nature spirituelle. Et ils nous aident, même si on n'en a pas tout à fait conscience. Et on verra comment, tout à l'heure, quelle est la relation qu'on peut avoir avec ces entités spirituelles, ces présences qu'il y a en nous. Alors, il faut savoir aussi, donc, il y a dans cette idée, on va la retrouver aussi, qui est très intéressante, dans, l'islam iranien, où il est parlé de l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel, en fait, c'est l'ange de l'humanité, parce qu'il représente vraiment l'archétype même de l'ange gardien. En fait, le mythe raconte que Gabriel a deux ailes, et l'une est pure lumière absolue, tandis que donc l'aile droite est pure lumière absolue, tandis que l'aile gauche, elle sera enténébrée, c'est-à-dire qu'elle sera salie par une espèce d'ombre, donc elle sera embrumée, on va dire. Et en fait, le mythe raconte, donc dans cet islam chiite, que cet ange Gabriel, en fait, il a été retenu par les ténèbres. Et du coup, c'est pour ça que son aile est devenue, s'est salie, pour ainsi dire. Et il est dit, donc, il est dit qu'il a perdu, il a été déchu de son rang. Et en fait, il est dit précisément, les humains qui sont ses membres ont pour sens et tâche de leur vie de l'aider à abolir cette ténèbre en l'abolissant en eux-mêmes. Grâce à quoi, l'ange remontera à son rang originel. Alors en fait, là, l'accent est pointé sur la responsabilité karmique de l'ange qui a été freiné par, bien évidemment, les ténèbres de la matérialité et qui, donc peut-être un petit peu comme nous qui nous attachons tellement à la vie physique et tout, nous transmettons finalement à la hiérarchie des animaux peut-être des impulsions qui va, dans leur prochain cycle de vie, les attacher encore plus aussi à la matérialité. Et du coup, peut-être qu'on aura une relation karmique, un dû karmique entre cette hiérarchie inférieure et nous-mêmes, quand on sera aussi devenu des anges, comme au niveau de Prométhée, au niveau de ce Gabriel, si on veut. Et donc, en fait, il faut savoir qu'on voit donc dès l'origine, il y a cette relation particulière entre l'ange et l'homme. Et le pèlerinage de l'homme, eh bien, il doit arriver à finalement à désembrumer son être psychique pour émerger dans la lumière de l'ange et le libérer, comme Prométhée. Hercule qui arrive au niveau du mont Caucase et qui libère l'ange parce qu'il arrive au niveau de la stature de l'ange. Alors maintenant, d'un point de vue pratique, on va essayer de comprendre quelle est la relation qu'il y a entre cet homme et cet ange, entre nous, l'homme et l'ange qui est en nous. Et donc, il faut savoir que Madame Blavatsky, pour expliquer les choses, on revient au niveau des symboles dans la métaphysique, ce soleil, cette conscience une, nous sommes un rayon de cette conscience une, un rayon qui est un peu faible parce qu'on ne manifeste pas beaucoup les pouvoirs spirituels qui sont en nous. On a le pouvoir de conscience, de connaissance, d'action, mais pour l'instant, on est pris dans la matérialité, on se conçoit comme une entité séparée et on est égoïste, etc. Donc, on a une vision qui est illusoire du monde, qui n'est pas juste, et on patauge dans cette illusion, si on veut. Par contre, le rayon qui symbolise cet ange, lui, c'est un rayon beaucoup plus pur. Et quand un rayon s'unit à un autre rayon, Madame Blavatsky nous dit que ça ne fait pas deux rayons, mais un seul rayon qui est intensifié. Et ce rayon intensifié, eh bien, c'est ce qui est en nous et qu'on va appeler le soi-ego supérieur. Qui est dans notre nature et qui est actif dans notre nature. Et ce soi-ego supérieur, c'est en fait, on ne peut pas dire que si on prend la notion de l'ange avec notre vision rétrécie des choses, on voit une espèce de dualité, l'ange à qui on va pouvoir prier, lui demander ci, lui demander là. Mais non, il faut dépasser l'idée de l'ego personnel et le transcender pour arriver à l'ego impersonnel. Et à ce moment-là, comme cette idée de il n'y a pas deux rayons mais un seul rayon, eh bien en fait, il n'y a pas une dualité, c'est une unité duelle, si vous voulez. On peut prendre aussi une image, cet ange gardien, on peut le comparer au père qui couve l'enfant qui doit naître. Et l'enfant qui doit naître, eh bien, c'est nous-mêmes, c'est ce qui est réel en nous. Et ce qui est en réel en nous, c'est notre sens d'identité, c'est « je suis moi ». Et c'est pas « je suis Madame X » ou « Monsieur Y », une personnalité qui s'est construite autour d'un noyau d'identité profonde. On est ce noyau d'identité profonde. Et ce noyau d'identité profonde, en fait, c'est le résultat, c'est la mémoire synthétique de toute notre expérience passée, c'est-à-dire de toutes les vies antérieures qu'on a eues. Mais cet enfant qui doit naître, qui est couvé par le père, par le parent spirituel ou par l'ange, eh bien, en fait, il doit grandir. Il doit, comme on l'a dit tout à l'heure, il doit arriver au niveau de la stature de l'ange. Mais c'est dans un rapport entre l'ange et l'enfant qu'il va pouvoir grandir aussi, s'il veut bien se tourner vers l'ange. Et donc, on va voir dans la vie de tous les jours un petit peu comment l'ange peut parler, entre guillemets, avec l'enfant. Parce que ce n'est pas un dialogue, comme on l'a dit, c'est plutôt une lumière qui va nous permettre d'avoir un éclairage de connaissances, des éléments de connaissances, et qui vont faire qu'on va comprendre les situations, et qui vont faire qu'en nous se déclenchent certains phénomènes. Et par exemple, quand l'ange va intervenir, lorsque l'enfant, lorsque l'homme va être dans une situation dangereuse, alors que son karma n'impose pas cet accident ou ce problème ou cette mort qui doit arriver. Parce que ça aussi, c'est karma. Si, par exemple, on a vu que le deuxième soldat, il est mort, c'est pas que son ange ne serait pas intervenu, mais c'est qu'il serait intervenu si son karma n'était pas de vivre cette situation. Pour des raisons X ou Y, pour des causes qui ont été semées par le passé, eh bien, il fallait qu'il meure, sa vie s'arrêtait là. Bon, c'est comme ça. Donc, le karma était là. Et donc, quand c'est pas notre heure, quand on ne doit pas vivre cet accident, eh bien, il y a quelque chose en nous, il y a cette instance divine qui va se rapprocher, pour ainsi dire, parce que on est en communion avec lui au niveau de notre nature spirituelle, mais cette communion n'est pas effective, sinon on serait presque omniscient, et ce n'est pas notre cas. Donc il va y avoir un rapprochement de cette entité spirituelle qui va faire qu'il va y avoir des éléments de connaissance qui vont en pénétrer dans la psyché de l'individu et un phénomène qui va se déclencher. Par exemple, on va citer simplement ce cas de cet enfant qui se retrouve sur une falaise en plein brouillard et qui est en train d'avancer. Et là se trouve le précipice. Tout d'un coup, il entend une voix derrière lui qui l'appelle. Et en fait, comme on l'a dit, ce n'était pas son karma de mourir comme ça, ni le karma de ses parents de vivre ça. Tout d'un coup, l'ange intervient et à ce moment-là, dans sa psyché, va s'organiser on ne sait pas comment expliquer les choses, mais enfin, de toute façon, il va entendre cette voix qui peut très bien être une voix qui est enregistrée quelque part dans une mémoire de la nature. Il l'aperçoit derrière, du coup, il rebrouche chemin et il est sauvé. Ou alors, on peut parler de cette histoire qui s'est passée en 1986 aux États-Unis, dans une école à Coqueville, où il y a deux forcenés qui arrivent dans une école qui sont bourrés d'explosifs et qui vont faire sauter l'école. Et l'école, littéralement, elle implose. Et quand les secouristes vont dans cette école, eh bien, quand ils arrivent, ils pensent que c'est un véritable massacre. Et là, à l'étonnement général, il n'y a pas un enfant qui est blessé. Et les enfants vont raconter différentes choses. D'une façon générale, ils vont dire qu'ils ont vu des gens, des êtres, comme des ampoules électriques qui brillaient et qui leur ont dit de se cacher à tel endroit, de se mettre dans telle position. Alors il y en a d'autres qui vont dire « c'était une voix qui m'a dit de faire ça et j'ai fait ça ». Et il y a un autre enfant qui va raconter « j'ai vu une dame gentille qui m'a dit de me mettre comme ça ». Et en fait, ils seront sauvés parce que ce n'était pas leur karma, bien sûr, évidemment, de vivre ce genre de choses. Et on sait dans l'actualité, malheureusement, que ce n'est pas toujours le cas, parce qu'on a vu encore de ce genre d'histoire arriver récemment, et malheureusement, des enfants ont été tués. Donc voilà, ils interviennent dans des moments où la personne, c'est pas son karma de vivre ça, donc cette entité spirituelle va communier quelque chose de sa force, de sa lumière, pour que la personne soit sauvée. Alors, Madame Blavatsky nous dit aussi des choses très intéressantes, précisément que quand l'homme dort, quand nous dormons dans le sommeil, eh bien, en fait, l'homme personnel va lâcher prise et il va s'endormir. Mais l'âme réelle que nous sommes va se retrouver sur son propre plan. Et Platon en a parlé en disant que l'homme se retrouve au banquet des dieux. C'est une façon de parler. Et en fait, là, on se retrouve en communion avec cet ego, ce soi-ego supérieur, comme dit Madame Blavatsky. Et Madame Blavatsky nous dit que, précisément, lorsque nous nous réveillons et que nous ramenons un rêve avec une séquence organisée qui veut dire quelque chose, par exemple, ça peut être un rêve d'avertissement ou un rêve de préparation à vivre un événement difficile, ou alors des éléments de connaissance qui nous manquaient pour une situation, et on a ce rêve et on comprend les choses. Eh bien, Madame Blavatsky nous dit que l'ego a participé, le soi-ego supérieur a participé pour passer quelque chose à la personnalité, pour passer des éléments de connaissance à sa personnalité. Donc, on voit aussi là l'intervention de ce soi-ego supérieur, de cet ange, si vous voulez, de cette présence, cette présence intérieure divine que nous portons en nous, quelque part, au fond du cœur. Donc, on peut l'appeler comme on veut, mais enfin, elle existe, elle est en nous. Et puis, là où on va la retrouver, précisément, c'est au moment du mourir. Et on a tous ces témoignages des rescapés de la mort qui racontent tous à peu près la même histoire. En fait, ils vont passer un tunnel et au bout du tunnel, il y a une lumière d'amour. Ils le perçoivent comme ça, une lumière d'amour. Et dans l'aura de cette lumière d'amour, eh bien, ils vont revoir leur vie passée. Mais non pas comme la personnalité a vécu cette vie, avec ses attentes, ses besoins, ses désirs, avec ses sentiments, ses ressentis, ses émotions, pas du tout. Avec une vision profonde qui voit les choses telles qu'elles sont, avec l'enchaînement qui voit les événements qui sont arrivés, avec l'enchaînement des causes et des effets qui ont amené tel et tel événement à arriver. Et en fait, l'être qui vit ça va même voir, par exemple, dans une situation, quand il agit ou quand il parle, quand il dit quelque chose, il va même ressentir exactement les émotions que les autres ressentent et il va comprendre les implications de ses actes dans tout ce qu'il a pu faire. Il va même deviner ce qui va pouvoir arriver plus tard, ultérieurement, par rapport à ce qu'il a vécu. Il y a même des cas où il y a carrément une omniscience incroyable, où l'être comprend tout, il comprend la genèse de l'univers, toutes les questions auxquelles il s'est posé, ben, il comprend. Mais bien évidemment, quand il est réanimé, quand il revient à la vie, c'est difficile de raconter, c'est difficile de passer tout ça. Et il n'a pas les mots, il manque des choses, mais il l'a vécu. Il a vécu cette proximité avec l'ange intérieur, avec cette présence qu'on a en nous et qui nous soutient et qui nous aide. Et donc, il faut savoir que la théosophie nous invite vraiment à nous tourner vers cette présence intérieure, peu importe comment on va l'appeler, ça n'a aucune importance. L'important, c'est cette relation qu'on peut avoir, cette relation parce qu'il est là, il peut répondre. Si on est dans une situation difficile, que pas pour nous, pas de façon égoïste, lui demander quelque chose, ça, c'est pas la peine. Comme on l'a dit, c'est une entité qui est impersonnelle, c'est-à-dire elle est en union avec le tout, avec la nature supérieure, avec le divin, si on veut. Peu importe comment on va appeler les choses, avec ce qui est essentiel dans tous les êtres, ce qui est éternel, eh bien, en fait, il faut se tourner vers cette nature, cette entité qu'on a au fond du cœur, qu'on a au fond de soi, pour lui demander un éclairage, pour lui demander dans quelle situation, qu'est-ce que je dois faire. Mais elle ne va pas nous dire, elle ne va pas répondre en disant « il faut faire ci ou ça ». Elle va nous donner intuitivement des éléments de connaissance de la situation telle qu'elle est. Et après, à nous, de, par rapport à cette connaissance, d'agir en conséquence. Parce que ces entités spirituelles qui sont au-dessus de nous, comme toutes celles qui sont au-dessus encore, eh bien, elles respectent le libre arbitre des individus. Et donc, là, tout le temps, le libre arbitre est respecté, et c'est simplement des éléments de connaissance qui sont donnés d'un point de vue intuitif, que ce soit dans un rêve, ou alors par un phénomène de synchronicité, on va tomber sur un livre, sur un article, qui va nous éclairer sur le problème qu'on est en train de vivre actuellement. Il va y avoir tout un tas de choses, il va y avoir cette espèce de dialogue, entre guillemets, dont il était parlé, dont Pierre Jovanovic nous a parlé tout à l'heure, quand on a lu un extrait de ce qu'il disait. Et donc, il faut savoir que lorsque nous arriverons au niveau de ça, que nous aurons avancé dans notre pèlerinage, parce que nous sommes un peu comme l'enfant prodigue de la Bible qui s'est éloigné du Père, mais le Père représente ce soleil, le rayon doit remonter au soleil, mais il doit remonter en pleine conscience, en ayant développé tous les pouvoirs ou un maximum de pouvoirs qu'il a en lui, qui sont potentiels et latents, certains sont latents même. Et donc, quand on sera arrivé à la stature de ce Prométhée, de ce Gabriel qui doit désembrunir son aile, quand on aura goûté vraiment l'arbre de la connaissance pour s'approcher enfin de l'arbre de l'immortalité, eh bien, on sera comme le Fils et le Père au niveau du Père. Le Fils sera devenu le Père, comme le Père, exactement. Et en fait, c'est tout le pèlerinage qu'on a à parcourir. Et c'est ainsi que finalement, on se connaîtra vraiment tel qu'on est en réalité.